Je vis sur les falaises d'Étretat.
CO2, mon amour.
J'adore positivement ces falaises. Je n'en connais pas de plus belles et de plus saines. Je veux dire saine pour l'esprit. C'est une admirable route entre le ciel et la mer. Une route de gazon qui court sur cette grande muraille de craie blanche au bord de la terre, au-dessus de l'océan.
Denis Chessou.
Mes meilleurs jours sont ceux que j'ai passés, étendus sur une pente d'herbe, à 100 mètres au-dessus des vagues, en plein soleil, à rêver.
Sur France Inter.
Des phrases de Maupassant pour débuter, lues par Cyriac Le Tuilier que l'on va retrouver tout à l'heure. C'est donc à la fois la nature et la mer qui chuchotent à vos oreilles. C'est CO2 mon amour, bonjour à toutes et à tous. Et Camille Blanès, bien sûr, nous a rejoint avec Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Alors, le solstice d'hiver est franchi, la lumière remonte et pour quelques minutes, on oublie tout. Une belle page blanche s'ouvre sur la table qu'on lisse du plat de la main. En marge, à l'encre rouge, toutes les résolutions listées, bien écrites. Alors vous me direz, bon d'accord, il y a 1,5% en moyenne de gaz à effet de serre en plus, désirer plus de 5G, encore plus de pesticides cette année, pulvériser à 5 mètres de chez soi, regarder le principe pollueur-payeur avec beaucoup de gentillesse et l'appliquer avec parcimonie. Bon, alors ça c'est fait. Ces vœux de l'an passé furent bien réalisés. Cette année, sage ou passage d'année ? En belles lettres cursives, avec des pleins et des déliés, on s'applique. Les yeux au ciel, vous savez, comme dans une photo de Doisneau, l'enfant qui, j'espère, palpite en vous, a gardé ses rêves bleus. Sur les petits carreaux, à l'encre noire, on fait le détail des opérations. Sauver l'océan, les insectes, maintenir le sauvage, regarder les oiseaux qui restent et pas seulement ceux qui disparaissent, garder la vie et le sol en bon état, prendre soin de notre eau qui va devenir rare et surtout terrasser les dragons productivistes qui nous minent. Et en tout cas, ne jamais renoncer. Car le peuple des « nous voulons des coquelicots, des colibris, des associations, des citoyens, des ONG, des collectivités agissantes » est bien là et pointe le fossé entre nos aspirations et celles du monde décidant. Alors dans le clair-obscur de l'époque, laissons pousser le regain des idées et des envies de notre jeunesse. Quel braquet choisir avant d'enfourcher un joli vélo et l'année 2022 ? Ben, au milieu du tumulte des mots, alors les mots c'est, on a beaucoup de éthique, transparence, durable, vivre ensemble, bon je vous épargne les disruptifs, agiles, j'en passe et autres bienveillances, quelle route emprunter ? Celle qui monte vers des sommets de clairvoyante sobriété ou celle qui dévale vers un chacun pour soi et tentant de faciliter ? Et comme Camus l'écrivait, il faut donner le goût de la vie sans jamais mentir. Alors cette année, au cœur de cette chaudière emballée, même si c'est une formule, on tente le 20-22. Belle année donc à tous, avec tous les vœux que vous choisirez et qui vous feront du bien. Et donc, j'ai choisi des embruns pour ce mois de janvier, pour débuter. Donc, je vais vous emmener à nouveau à Étretat. Donc, nous sommes en Seine-Maritime. Vous avez la Manche qui est là. Et le ciel absolument incroyable. Je pense que ça va nous faire du bien avec un petit fond comme ça de Maupassant. Mais sans plus tarder, eh ben, on commence avec qui ?
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendons le naufrage. Alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Bien sûr, le cœur qui palpite, le cœur battant, celui du monde, signé Lavillier. Allez, direction à présent les Embruns, Seine-Maritime.
Etretat, c'est d'abord une curiosité géologique avec un paysage qu'on peut qualifier d'unique au monde. Des falaises de craie et de silex, percées avec des aiguilles. Le seul endroit dans le monde où on peut en voir sur notre planète, c'est ici, à Etretat et nulle part ailleurs. Quand on prend conscience du temps qu'il a fallu pour former ce paysage, ça nous oblige à une certaine humilité.
Oui.
Ça nous rappelle au caractère très furtif de notre passage sur cette planète,
oui,
en tant qu'homme, individu ou même en tant qu'humanité tout entière. Et donc, on pourrait le dire autrement, respect la nature.
Oui, c'est ça.
Elle s'est débrouillée toute seule.
Alors Maupassant, dans sa courte vie, était très heureux de venir ici. Il a décrit, on le sait, des rudes, hein, des Cauchois, leur visage, leur nature humaine, mais aussi les paysages. Et avant d'être une carte postale, je vous emmène dans une immense affaire géologique, dans un gala de galets à Etretat et ses environs. Une arche de craie plongeant dans la mer. Ah, Monet, Boudin, Courbet, Dufy, Braque, où êtes-vous? Ah ben là, avec vos chevalets, et oui. Tous sont pris sur cette côte des leçons de lumière. Et, cher Arsène Lupin, quelle mise en scène, rien que pour vous, signé Maurice Leblanc, comme la craie. Des peintres, des écrivains et même des aviateurs, des fous du ciel, puisque le 8 mai 1927, l'oiseau blanc, et oui, toujours le blanc, quitte le Bourget. Ningesser et Colly passent à Etretat, car Ningesser, il y avait de la famille et c'est ici qu'on les vit pour la dernière fois, donc en France. L'oiseau blanc et après, maintenant, Charles et François, où êtes-vous? Alors nous avons de l'air, des vagues, nous avons le lieu, il nous faut les mots. Cyriac Le Tuilier. Cyriac Le Tuilier, quand il n'est pas maire de sa petite commune de la poterie de Cap d'Antifer, raconte la beauté, l'histoire, la nature.
Pour remonter à l'époque des dinosaures, entre moins 180 millions d'années jusqu'à moins 50 millions d'années, et à cette époque-là, ici, on est sous un climat tropical. On est au fond d'une mer. Une mer chaude, peu profonde, dans laquelle foisonne la vie, avec de nombreux animaux à coquille calcaire, mais aussi des algues, ouais, les fameux coccolithes, ouais, des algues qui absorbent le CO2 de l'atmosphère et qui en fabriquent une coquille calcaire. On est en pleine période des dinosaures, on peut trouver des fossiles de dinosaures dans la craie à silex des falaises qu'il y a entre le Havre et le Tréport.
Et alors, en fait, les creux et la fameuse aiguille creuse, donc ça c'est quoi ? C'est de l'érosion ?
Oui, alors il y a eu ce phénomène de soulèvement du plateau, ouais. De l'ensemble du bassin parisien. On parle de plateau, mais on pourrait plus facilement l'imaginer sous forme d'assiette creuse ou de pile d'assiette creuse. Ouais. Cette pile d'assiette creuse, elle s'est formée par l'accumulation des coquilles calcaires et les mouvements de la croûte terrestre ont conduit à soulever la pile d'assiettes. Mmh. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est au-dessus du niveau de la mer. Et pendant ce soulèvement, la pile d'assiettes a basculé sur le côté. Et quand vous suivez la côte d'Albâtre, en démarrant du port du Havre et en remontant vers Dieppe, vous pouvez percevoir avec un regard, accompagné d'un spécialiste, vous pouvez percevoir l'inclinaison dans la pile d'assiettes des couches géologiques. C'est un véritable livre d'histoire de tout le Crétacé, la côte d'Albâtre.
Rappelez-nous donc à l'époque, entre 150 millions et 50 millions d'années, combien il fallait de temps pour que ce soit monté ?
Alors, le rythme d'accumulation des débris calcaires, qui étaient microscopiques, parce que la coccolithophoridae, ce sont des algues, pour les observer, il faut un microscope électronique à balayage x 4000. Hein. Donc ça met du temps à se déposer au fond de la mer. Eh bien, le rythme d'accumulation, selon les savants, il était en moyenne d'un dixième de millimètre par an. Un dixième de millimètre par an, c'est vraiment peu. Et du coup, pour certains scientifiques, la distance qui sépare chaque couche de silex dans son apparition correspond à un cycle complet de la rotation de l'axe de la Terre sur lui-même, ce qui correspond à 20-23 000 ans. Donc là, on s'apprête à descendre des escaliers qui vont nous faire remonter le temps. À chaque marche, on va prendre 10 000 ans.
C'est pour mon anniversaire. J'ai 15 ans.
Mais bon anniversaire, monsieur. Monsieur ?
De Maupassant. Guy de Maupassant.
Et alors, le cher Maupassant qui a passé ses bonnes parties de ses vacances, hein, oui. Ici, voilà.
Pour parler de Maupassant, je crois qu'on va se déplacer.
Allez.
On va aller jusqu'à une mini-valeuse qui s'appelle la valeuse Monnier.
Wow.
Et qui va nous donner une perspective encore différente. Parce que là, on est vraiment dans la zone la plus fréquentée sur le plan touristique.
Oui.
C'est vrai que c'est très attractif. Étretat, selon l'office de tourisme, c'est plus d'un million de visiteurs par an.
Oui.
Donc on va s'écarter un peu du tumulte.
Oui.
On va aller percevoir ce que Maupassant ressentait ici même.
Ah bah oui, là c'est, dites donc, c'est drôlement agréable.
Alors la pelouse aéroaline, qui est accueillante, hein, on y est bien, elle est confortable.
Bien, c'est doux.
Elle est composée de plantes qui sont adaptées au vent et au sel. Aéro pour le vent, aline pour le sel. Et cette végétation, elle est adaptée parce qu'elle souffre des deux contraintes écologiques du bord de mer. Le vent ici va poser un problème de sécheresse. Les plantes souffrent de la sécheresse. On est en Normandie, mais alors je sais bien qu'on a des précipitations, il pleut, mais c'est surtout le vent qui dessèche. Moi, quand je suis guide sur l'eau de la falaise, qu'il y a du vent, j'ai soif, j'ai les lèvres qui gercent, et bien les plantes ici,
d'accord,
souffrent aussi du dessèchement par le vent. Le sel, lui, par les embruns que le vent va remonter sur l'eau de la falaise, ce sel va brûler la végétation. Donc seules les plantes adaptées à ces deux contraintes écologiques vont pouvoir se développer, les autres vont mourir.
Est-ce que nous sommes sur une valeuse ici ?
Alors ici c'est une mini-valeuse, c'est un terme local, hein. C'est un terme d'origine cauchoise,
ouais.
C'est dans notre patois.
Hein. On a une cinquantaine à peu près, hein, ce qu'on appelle les valeuses là ici.
Tout à fait, ouais. Il y a deux types de valeuses. Des valeuses qui arrivent au niveau de la mer, comme celle d'Étretat,
ouais.
Qui pour la plupart ont été urbanisées dans le courant du 19e siècle. Et des valeuses qui parfois arrivent à mi-hauteur des falaises, et là on parle de valeuses perchées. Alors, elles sont suspendues dans la falaise.
Waouh, le choc, là ça y est, et on voit bon, allez, presque toute la côte d'Albâtre, peut-être pas les 140 km quand même.
35 km
sous les yeux.
Ouais. Ouais. On va d'Étretat jusqu'aux falaises qui cachent Saint-Valery-en-Caux, après Fécamp. Quand on reprend les écrits de Maupassant, et notamment ce fameux courrier qu'il écrit à Gustave Flaubert, son maître.
Paris, le 3 novembre 1877. Cher maître.
Où il décrit de mémoire tout le parcours d'Antifer à Étretat, et d'Étretat à Étigues en pied de falaise.
Après Bruneval, en allant vers Étretat, il existe une fort jolie plage, celle d'Antifer. On y arrive des terres par une petite vallée dont la naissance se trouve près du Tilleul, sur la route du Havre.
Quand on refait ce parcours aujourd'hui,
ce chemin s'enfonce peu à peu.
On a un sentiment d'intemporalité qui nous submerge, parce que tout ce qu'écrit Maupassant, on peut encore le vivre aujourd'hui.
Une fois sur la plage, on aperçoit à droite une haute falaise droite qui va vers le Havre.
Et dans nos régions très peuplées et très industrialisées, des territoires où on peut vivre ce sentiment d'intemporalité, ce sentiment de nature que Maupassant venait chercher, eh bien ça se fait rare, très rare.
On se trouve surtout isolé, séparé des autres par cette muraille de falaise en demi-cercle dont la mer bat les deux pointes.
Oula ! Tiens, celui-ci, Denis, regarde, il a les ailes bien droites et bien rigides. Un planeur infatigable. C'est un oiseau qu'on peut considérer de la famille des albatros. C'est le fulmar boréal. On l'appelait aussi le pétrel fulmar autrefois. Alors lui, paradoxalement, c'est un oiseau qui a été favorisé par la pêche industrielle, les bateaux-usines.
Oui, parce qu'on a fécamp sous les yeux, au loin. Donc...
Ça fait penser au Terre-Neuve, oui.
Ouais.
Alors c'est un oiseau qui était à l'origine circumboréal, il nichait au nord du cercle polaire. Mmh. Et puis, il a suivi les bateaux-usines qui pêchent les poissons et qui rejettent les viscères en mer. Et du coup, ça a favorisé son développement. Et paradoxalement, aujourd'hui, c'est cette même pêche industrielle qui menace ces populations, puisqu'il est en régression, comme la plupart des oiseaux marins d'ailleurs sur nos côtes. La question qu'il faudra qu'on se pose en tant qu'homme, c'est est-ce qu'on a encore envie de voir ce spectacle? Est-ce qu'on a encore envie de voir des oiseaux peupler notre littoral et nous offrir ce spectacle qui nous fait rêver?
Bon, bah, dites donc, on va se faire une petite potée, là, Cyriac. Qu'est-ce que c'est?
J'ai l'honneur de vous présenter l'ancêtre de tous les choux que l'on cultive aujourd'hui.
Oh, bonjour, monsieur Chou.
Le chou potager, Brassica oleracea,
ouais.
C'est l'ancêtre du chou fleur, du chou de Bruxelles, du chou brocoli, etc. Les botanistes ne sont pas tous d'accord sur son origine. On pense que son berceau, c'est la Mésopotamie. Mais en tout cas, sur la côte d'Albâtre, ce chou sauvage a trouvé un biotope idéal pour se développer. On en a sur toute la côte, sur des densités assez fortes qu'on ne va pas retrouver partout en Europe.
Donnerai la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça?
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Alors, on a notre chou? Oh ben dis donc, on va continuer notre marché là. Qu'est-ce qu'on prend?
La bête maritime, c'est l'ancêtre de toutes les betteraves que l'on cultive. Donc la betterave rouge qu'on cultive dans nos potagers, mais aussi la betterave fourragère qu'on donne au bétail comme fourrage, et la betterave sucrière. Il y a aussi de la carotte à gomme, il y a du fenouil, de l'oseille, un cousin du salsifis. Enfin, on est dans un véritable potager conservatoire. Mais j'aime aussi mettre en lumière que ce potager conservatoire attire les scientifiques. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Roduron, spécialiste des carottes, qui était accompagné d'un ingénieur de chez Seeds Close, des graines closes, le semencier. Et ils étaient venus chercher des graines de carottes blanches pour croiser avec une variété de carottes potagères afin de transmettre la capacité de résistance c'est de ça. Cette carotte sauvage à la mouche de la carotte. Et aujourd'hui, ils commercialisent une carotte résistante, ce qui évite d'utiliser ces fameux nématicides, des pesticides qu'on utilise dans le maraîchage. Donc, quelque part, on peut conclure aussi que ce potager, c'est un laboratoire à ciel ouvert.
Donnez-moi du chou farci.
Ah, vous voyez ?
Ah oui.
Les galets et autres valeuses nous attendent toujours avec Cyriac Le Tulier. Après qui?
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « sois prudent ». La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Et Cavardi, Poigeot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Le vent de Renault sur France Inter qui porte nos oiseaux et nos rêves.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas votre cas non plus. Donc toujours la direction de la Seine-Maritime. Tenez, début juin, bientôt ce sera le lin bleu, là ce sera partout, ce sera une merveille aussi ça. Alors soif d'embrun, de beau, de craie sur le tableau sonore de nos oreilles, être ou ne pas être tard. Bah être tard bien sûr, avec le galet. Ah oui, alors là parlons-en, parce qu'il sert de protection quand même, c'est très important, c'est même indispensable, au pied des falaises, donc protection des vagues. Et durant 100 ans, alors là on y a été, on a ramassé les galets, on en a exporté au Japon, on en a fait de la poudre à canon, de la dynamite, des feux d'artifice, de la peinture blanche pour les routes, que sais-je. Et aussi d'ailleurs des lentilles de précision, hein, ça se fait donc à Cailleux-sur-Mer. On en a quand même extrait 10 fois plus que ce que l'on voit quand même aujourd'hui. Alors en 1984, enfin, on a dit stop, on arrête. Gala de galets, vous dis-je, Cyriac Le Tulier.
Et là, pratiquement plus personne. Plage de galets, le goéland pour regarder tout ça, la mer. Et donc, rappeler une chose essentielle, c'est le galet. C'est-à-dire ce galet, en fait, ce n'est jamais que du silex qui après a été roulé dans les mains de la mer.
Quand la falaise s'use, elle recule, il y a des morceaux qui tombent, ça s'effondre, eh bien, la craie va se dissoudre dans l'eau et libérer le silex qui, lui, va être roulé chaque jour par les vagues. Donc les vagues vont polir le silex et le transformer en galet. Assez rapidement, entre 6 mois et 3 ans, ça dépend de l'endroit où il va être sur la plage. Maintenant, le galet, il joue un rôle fondamental au pied des falaises pour préserver le pied de falaise du sapement par les vagues. Il participe à la protection du pied de falaise. Il participe aussi à la protection des villes comme Étretat, qui par endroits sont en dessous du niveau de la mer. Donc là, on va traverser la falaise par un tunnel et ça va nous changer notre perception sonore parce qu'on va être dans l'intérieur de la falaise. Bon, attention, on baisse bien la tête et on fléchit les jambes.
Hop là, allez, suivez-nous, baissez la tête. Voilà.
Ouais, bah c'est pas violent, hein. Ça fait une centaine de mètres. On est au milieu.
Ici, tu peux te mettre en empathie avec l'esprit de Maurice Leblanc.
Ah ouais.
L'aiguille creuse, le trésor caché à l'intérieur de cette aiguille dans laquelle il imagine une cavité, une grotte, que l'on pourrait rejoindre par un tunnel, une entrée secrète.
Bon, Maurice,
Où il est où, là, ton trésor?
Oh, ça alors! Écarte les herbes et regarde. Ainsi là, à 10 brasses du rivage, existe une cachette incroyable. Tous les trésors des rois, grossis de siècle en siècle, tout l'or de la France, tout ce qu'on tire du peuple, tout ce qu'on arrache au clergé, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l'Europe, c'est dans cette caverne qu'on l'entasse. Oh, qui aurait pu jamais deviner le secret impénétrable de l'aiguille?
Personne.
Si. Lupin.
Ah là là.
Le phare du Cap d'Antifer.
Oh, que c'est beau.
Donc là, c'est la pointe du Fourquet.
Alors, fournissez quelques instants ses yeux sur les falaises. Et nous avons nos goélands. Nous avons quoi? Nous avons aussi des habitations pour moitridactyles.
Alors là, un goéland marin qui passe en vol avec le dodoir, qui est l'espèce la plus rare qu'on voit sur notre côte. En tout cas, chez les goélands, c'est une espèce rare puisqu'on en recense moins de 180 000 couples sur la planète. Le goéland argenté qui exploite vraiment toutes les parties de la falaise. La falaise qu'on peut considérer comme un immeuble pour les oiseaux. Ouais. On aperçoit dans la petite cavité là-bas, juste à la limite de la craie et de la poche d'argile, dans le creux ici, un fulmar, qui est un oiseau pélagique, qui vient sur nos falaises uniquement pour se reproduire. Le reste de son temps, il le passe en mer au large. Et puis les choucas, donc les petits noirs, qui viennent longer la falaise et qui vont rentrer dans les fissures et les failles. Ici, on change d'ambiance. On était dans une confrontation avec le monde maritime et puis tout à coup on traverse une lande de prunelliers, un passage secret, un sas qui va te mener d'un monde à un autre.
Ouais, en fait, il faut grimper une toute petite barrière qui fait 1 mètre de large et 1,50 m de haut avec 3 marches en bois. Enfin,
ouais, 3 petites marches en bois.
Et de l'autre côté, l'Angleterre, quoi,
130 km du point où nous nous trouvons.
D'accord.
Dans cette direction.
Et là, on est en pleine voie littorale ici quand même.
Oh oui, c'est la loi littorale. Moi, en tant que maire, je la connais bien sur une commune comme la Poterie Cadentifère.
Bah oui.
Fondamentalement, personne ne la remet en cause, cette loi littorale. La difficulté, c'est dans son application, parce que parfois, elle peut être contre-productive sur le maintien de certaines activités humaines. Mmh. Par exemple, l'élevage, on a des fermes sur notre territoire qui peuvent être contraintes par la loi littorale en termes de développement. Et nous, notre volonté, c'est de préserver ce qu'on voit ici, des prairies qui sont pâturées par des vaches, par des bovins. Et l'élevage s'intègre harmonieusement sur le littoral, beaucoup plus que l'agriculture céréalière ou l'agriculture industrielle.
Syriac, dans la grande série, il y a peu d'endroits où le pied de l'homme n'a pas mis la main.
Oui.
C'est le cas en Seine-Maritime, non?
Ah oui, je crois que c'est le meilleur des exemples. Selon la revue Agrest, 98% du territoire de la Seine-Maritime est occupé par une activité humaine.
Ah oui.
Quels sont les 2% restants? Les fleuves et les rivières.
Bon, alors on se dit quand même un lieu pareil. On a quand même gentiment envie de le préserver, quoi. On a envie de le transmettre.
Bien sûr que c'est un endroit d'ailleurs où la politique de préservation, qui est une politique nationale, elle a débuté il y a longtemps, puisqu'en 1935, il y a quelqu'un qui est venu de Paris et qui a dit « Tiens, il est trop tard, on va le protéger avec un site classé, loi 1932 sur les sites et monuments ». L'exigence de préservation du paysage ici, il ne date pas d'hier. Nos aïeux, ils en ont fait des efforts pour préserver ce territoire-là. Malheureusement, aujourd'hui, et ça me traverse les tripes, il y a des politiques nationales qui se confrontent. D'autres types de politiques, et notamment la politique énergétique. À partir du mois d'octobre, sur toute la zone maritime, ici, va être implanté un parc éolien offshore de 83 éoliennes qui feront 2 fois la hauteur des falaises, 180 mètres de haut, qui flasheront blanc toute la journée et rouge toute la nuit.
Ce sera à combien? 10, 15
km. D'ici à 15 km. On voit le mât de mesure d'ici. Hein. Je ne sais pas si tu l'aperçois, c'est un petit mât.
Oui, ça y est. Oui, il faut s'accrocher là.
Donc là, il est au cœur du parc. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec les énergies renouvelables? Moi, je suis d'accord. Mais par contre, je m'interroge sur la nécessité d'en développer partout. Parfois, je me dis que il est peut-être temps que la nature divorce de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'environnement, on est en train de détruire de la nature. Quand je dis nature, on pourrait remplacer le mot nature par émotion. Je crois que ce qui manque aujourd'hui aux décideurs, et notamment à l'administration qui gère l'implantation de ces parcs éoliens, c'est une échelle qui permet de mesurer l'émotion du paysage.
Aujourd'hui, il y a des règles qui s'imposent sur le plan physique. La perception physique du projet, elle est bien prise en compte. Mais il n'y a aucune échelle qui permet de mesurer l'impact émotionnel de ce projet-là. Il faudrait faire appel aux artistes parce que eux, avec leur regard, ils nous permettraient de créer cet outil qui permette de mieux prendre en compte l'émotion.
Je peux vous dire qu'en tout cas, il n'y a pas de module comme ça à l'ENA aujourd'hui. Hein. C'est pas.
Bon, non, mais c'est bien au contraire.
C'est bien d'avoir une belle utopie, hein, parce que c'est intéressant. Non, mais on vous entend et les gens se disent ah oui, d'accord. Mais alors, l'échelle du Richter de l'émotion, ça va être un peu compliqué à faire passer.
Mais c'est comme ça que les peintres de l'école de Barbizon sont allés voir l'administration et leur ont dit attention, nous, on va puiser notre inspiration dans la nature, dans la forêt de Fontainebleau. Et ce fut la première forêt protégée dans le monde.
Elle est sympa, votre sonde. Là, on remonte votre valeuse en parallèle. Et alors, si on arrive le soir, parce que là, on n'enregistre pas le soir, Syriac, on a ce rayon vert. Le rayon vert, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le fameux rayon vert. Eh bien, je connais déjà peu de monde
qui l'a vu.
Je dois dire que je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie.
C'est votre aurore boréale à vous, quoi.
En quelque sorte. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'endroits où on peut percevoir le rayon vert. Qu'est-ce que c'est que le rayon vert ? Eh bien, c'est quand le disque solaire disparaît derrière l'horizon et que le tout dernier rayon de soleil traverse la nappe d'eau qui forme un prisme. La Terre est ronde, la rotondité de la Terre fait que quand le disque solaire passe derrière, il ne laisse filtrer que la lumière verte qui apparaît sous la forme d'un rayon, d'un point. C'est vraiment une tête d'épingle qui flash comme ça en, je sais pas, un quart de seconde. Et paraît que quand on voit le rayon vert, eh bien, on prolonge sa vie de 7 ans.
Le rayon vert, vous l'avez vu d'ailleurs, le rayon?
Je l'ai vu, mais ça n'était qu'une fraction de seconde. Lorsque le globe solaire s'est couché à l'horizon, n'est-ce pas? Alors, à la dernière phase, il y a eu comme une sorte d'éclair, vert clair, comme une lame de sabre qui se détachait horizontalement, n'est-ce pas ? Et c'est extrêmement joli, mais tout à fait court.
Jules Verne raconte que quand on voit le rayon vert, on est capable de lire dans ses propres sentiments et dans les sentiments des autres.
Vous avez été vraiment fabriqué par ce paysage,
hein ? Mes parents étaient boulangers-pâtissiers au Havre. Ouais. Donc j'ai grandi dans le fournil et mon terrain de jeu, c'était les cartons à biscottes dans le fournil.
Ouais.
Mais j'ai passé toute mon enfance et mes vacances chez les grands-parents qui avaient la ferme à la poterie 4 dentifères.
Ouais.
Et c'est à cet âge, 10-12 ans, que je me suis imprégné des lieux. Comme je le dis souvent, il n'y a pas besoin de vivre ici pour aimer cet endroit. Mais il est vrai que c'est à cet âge-là qu'on s'imprègne d'un territoire et j'en suis devenu amoureux.
Ouais.
C'est pour ça que j'aime beaucoup Maupassant, parce que c'est ce qu'il a vécu quand il a grandi sur Étretat, qu'il parcourait les falaises, qu'il allait pêcher dans les rochers, attraper des crabes, qu'il visitait les tunnels, qu'il l'explorait. Eh bien, j'ai vécu la même chose. En effet, j'ai un rapport avec le territoire qui est un rapport émotionnel.
Merci à vous, Syriac Le Tullier. On va donc quitter cet Étretat et on repartira pour une autre direction la semaine prochaine, auparavant. Le bel univers d'Adèle, Easy on Me. Ça sent la fin. Merci à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a réalisé et colorisé l'émission, à Thierry Dupin, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et la semaine prochaine, vous savez, de temps en temps, j'aime bien faire des numéros hors série, c'est-à-dire des personnalités. Mais on a eu Colette et la nature, on a eu Vinci. Et ben là, ce sera donc Giono et la nature. Ça nous fera du bien au milieu de ces froids. Un petit air donc de Provence avec Giono et la nature. Vous en avez l'habitude, si vous le souhaitez. Donc les podcast aussi bien pour les éditos de CO2 Mon Amour que pour l'émission complète. L'as-tu lu mon petit loup, hein, que vous retrouvez d'ailleurs aussi tous les samedis à 15h50 dans l'émission de Dorothée Barba. Et puis, quoi d'autre? Ah bah si, il y a aussi Bestiole. Ah bah si, pour vos gamins, là, faut pas vous gêner. C'est pour tous les âges. Vraiment, je vous assure. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche.